Bien, donc on reprend donc avec un exposé sur la médecine et les maladies héréditaires de Maïke van der Lutte. Donc Maïke est maître de conférence à l'Université de Paris 7. Ses recherches portent sur les sciences de la vie dans l'Occident médiéval, 12e, 14e siècle, en croisant des sources médicales, théologiques, philosophiques, juridiques, etc. Donc, elle s'intéresse également à l'histoire culturelle, sociale et religieuse et à l'histoire des textes. Elle a publié en 2004 « Le ver, le démon, la vierge », « Les théories médiévales de la génération extraordinaire », une étude sur les rapports entre théologie, philosophie, naturelle et médecine, que je vous recommande. Et en 2008, en co-direction avec Charles de Miramont, « L'hérédité entre Moyen-Âge et époque moderne, perspective historique ». Et elle vient de sortir en 2004 un livre collectif sur la nature comme source de la morale au Moyen-Âge. Voilà. Donc je lui laisse la parole.
Merci beaucoup. Alors, merci à Sabine de m'avoir invitée à cette rencontre. Donc, on passe de... Je ne vais pas vous parler d'Aristote, ni beaucoup de philosophie naturelle. Donc, on passe à la médecine. Oui, c'était le but. Liberté, la liberté à penser, et pour le sujet qui me concerne, doit être compris pas tellement... dans le sens de braver un interdit ou même d'aller à l'encontre d'une thèse explicitement articulée, comme pour le vide, mais plutôt dans le sens où les médecins médiévaux inventent quelque chose qui était très difficile à penser, c'est-à-dire la notion d'hérédité, à travers le concept de maladie héréditaire. Donc pour nous aujourd'hui, la génétique est devenue tellement centrale dans les sciences de la vie que c'est devenu, c'est une sorte d'exercice qu'il faut faire, intellectuel qu'il faut faire, c'est de se mettre à la place de ces savants médiévaux pour comprendre à quel point il était difficile pour eux de penser l'hérédité. Parce que cette théorie d'hérédité, comme on l'entend aujourd'hui, se développe très tardivement, non seulement à partir du 19e siècle, voire le début du 20e siècle. Avant cette centralité de la notion d'hérédité, la notion centrale, c'était la génération. Donc, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Donc, la génération, c'est le concept central. Et il est très difficile de penser l'hérédité dans ce cadre-là. On verra pourquoi. Et c'est à travers donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la maladie héréditaire n'est ni un concept universel qui irait de soi, ni un concept d'origine antique. En tout cas, je vais nuancer l'idée que ça remonterait déjà à la médecine antique. Donc, pour moi, c'est un concept qui a été forgé par les médecins scolastiques. Et ce sont eux qui vont transférer une notion d'origine juridique, de l'hérédité juridique, dans le domaine de la biologie. Je vais commencer, non pas par un texte médical, mais un texte philosophique quand même, issu de l'Université de Paris vers 1300, et parce que c'est ce texte-là qui avait attiré en premier mon attention sur le sujet. Il s'agit d'une question dite côtelébétique. Donc, qu'est-ce que c'était? Une question côtelébétique, c'est une discussion qui avait lieu dans les universités médiévales et où la question était posée par le public. Donc, contrairement à ce n'était pas défini par le maître eux-mêmes, mais c'était une question qui était posée par le public, ce qui permettait aussi d'évoquer des problèmes qui n'étaient pas posés par les autorités. Et Joël Ducos a tout à l'heure parlé du cadavre qui saigne, et qui est justement le genre de question qui n'est pas dans les autorités, mais qui peut surgir dans ces débats côtelébétiques. La plupart de ces débats côtelébétiques sont issus de la faculté de théologie, mais il y a un petit nombre de ces questions issues de la faculté des arts, donc, où exercent les maîtres en philosophie. Donc, 1300, Paris, deux maîtres, on ne sait pas vraiment lequel des deux était responsable de cette question. Sans doute, ils ont travaillé ensemble, comme il était souvent le cas dans ces débats côtelébétiques. Il y a un maître et son assistant qui répondent ensemble. Le public a posé la question de savoir si le roi de France doit guérir les hommes d'une maladie qui s'appelle maladie du roi. Donc, si le roi de France doit guérir les hommes de cette maladie, la maladie des rois, donc ce sont les écrouelles, ça fait référence à donc les rois thaumaturges. Selon une croyance qui remonte au moins jusqu'au XIIe siècle, voire au-delà, les rois de France et d'Angleterre détiennent le pouvoir. Il y a un problème de micro, j'ai l'impression. C'est rien. J'ai tendance à m'éloigner. Donc, selon cette croyance, les rois de France ont le pouvoir de guérir par le toucher les écrouelles. Donc, on voit ici, surtout à gauche, on voit une image tardive du XVe siècle où on voit le roi en train de toucher une malade. Et selon ces traditions, les rois de France auraient, par le sacre, cette capacité. Et vous voyez à gauche, vous voyez Clovis, donc ça remonterait, selon la tradition médiévale, ça remonterait à Clovis, premier roi franc à se faire baptiser. Donc vous voyez Clovis dans le baptistère avec l'évêque de Rémy de Reims qui reçoit la Sainte Ampoule de la Colombe, hein, qui contient le Saint-Crème. Donc c'était une tradition bien établie, bien connue. Revenons maintenant à la question qui est posée. Donc, on demande si le roi de France doit guérir les hommes d'une maladie qui s'appelle maladie du roi. Il faut dire, sans exclure un miracle, ils sont prudents, sans exclure un miracle, que l'on peut aussi chercher une autre cause naturelle par laquelle le roi de France guérit une telle maladie. À ce sujet, il est nécessaire de savoir que selon les médecins, donc référence à l'autorité des médecins, dans ce cadre de débat philosophique, il y a des maladies accidentelles qui peuvent affecter indifféremment telle ou telle personne. Mais il y a aussi des maladies héréditaires qui affectent tant les enfants que les parents, comme la lèpre et d'autres maladies de ce genre. Et comme il y a des maladies héréditaires, il est aussi possible que certaines personnes reçoivent par succession héréditaire le pouvoir de guérir de telles maladies. En fait, le remède peut correspondre à la maladie. Donc voilà un débat qui se trouve dans une collection, donc c'est une question parmi beaucoup d'autres, dans un manuscrit qui a été découvert à la fin du XIXe siècle, mais que Marc Bloch ignorait quand il a écrit son livre classique sur les rois thaumaturges. Cette question, donc cette collection a fait l'objet d'un certain nombre de commentaires d'historiens de la philosophie, et en 1986, Eugenio Ruandi, historien de la philosophie italien, a utilisé cette question pour soutenir que, contrairement à l'avis de certains, ce manuscrit parisien contient des débats sérieux, que ce n'est pas seulement une collection qui contient des questions scabreuses, comme l'avait laissé entendre, entre autres, Pierre Duhem. Donc Pierre Duhem a qualifié les maîtres essarts parisiens de puérils obsédés du sexe qui se complaisent en une philosophie de pourceau. Donc l'article de Duhem a ce titre-là, une philosophie de pourceau. Alors que pour Randi, ce qui frappe quand on parcourt cette collection, c'est au contraire une grande variété de questions et un réel intérêt scientifique de la part de ces philosophes, surtout pour des sujets d'ordre biologique. Et pour lui, cette question sur les rois thaumaturges conjugue une attitude rigoureusement naturaliste, donc un effort d'expliquer les miracles par des causes naturelles, et une critique implicite du pouvoir royal. Donc on donne, ces maîtres donnent une base scientifique à la croyance commune, folklorique, au roi thaumaturge, mais en expliquant le don divin du roi comme une maladie héréditaire, ils le dévalorisent, ils laissent entendre que le pouvoir thaumaturgique ne relève pas du sacre. Ce n'est pas un don divin, c'est quelque chose de naturel, c'est même comparable à une maladie héréditaire aussi horrible que la lèpre. Randi ne s'est pas intéressé au fait qui a attiré mon attention, c'est le fait que ces deux philosophes, vers 1300, renvoient dans leur réponse à l'opinion des médecins, donc à une théorie médicale des maladies héréditaires. bon, c'était pas du tout son propos, et autre, ou peut-être pensait-il que l'existence d'un tel concept en médecine allait de soi. Le Code Libet suggère en tout cas que vers 1300, ce concept de maladie héréditaire était suffisamment installé pour pouvoir servir dans un débat qui n'est pas un débat médical mais un débat philosophique, pour naturaliser ou rationaliser un miracle. Donc, en 1300, c'est un concept qui est bien installé. Mais en réalité, c'est un concept qui est à ce moment-là encore relativement récent. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de suivre la mise en place et le contenu de ce concept de maladie héréditaire, son importance et aussi ses limites. Donc c'est une naissance difficile, hein, la naissance de ce concept dans la pensée scolastique, donc entre le XIIe et le début du XVIe et le XVIe siècle. Donc ça c'est la suite de la question. Donc d'abord, en m'intéressant à l'invention de la terminologie, ce qui est très important pour ce cas. Donc à partir de quel moment on commence à utiliser une terminologie juridique de l'hérédité pour ces maladies. Donc le rôle de cette analogie juridique qui permet parfois, sous certaines plumes, de distinguer les maladies héréditaires de ce qu'on pourrait appeler les maladies de la génération, qui est quelque chose de beaucoup plus vaste. Et puis, essayons de comprendre comment, donc quelle est la causalité, comment est pensé ce mécanisme de la transmission des maladies héréditaires. Ce qui nous permettra enfin aussi de nous interroger sur l'importance relative de ce concept. Le concept de maladie héréditaire existe donc en 1300. En médecine, on a un exemple en 1280, un dictionnaire, donc un dictionnaire de Jean Saint-Amand, donc on est toujours à Paris, dans ce même milieu, mais dans le milieu médical. Jean de Saint-Amand, dans son dictionnaire médical, inclut une entrée morbus hereditarius, donc une maladie héréditaire. Donc ça montre que c'est une véritable catégorie pour lui à ce moment-là. Mais si on remonte en arrière au XIIe siècle, parce qu'au XIIe siècle, c'est vraiment le moment où la médecine se constitue en discipline scientifique, qui n'est plus seulement une pratique, un savoir-faire, mais aussi un savoir qui se veut scientifique. Dans la médecine du XIIe siècle, qui est basée sur la traduction de textes à partir de l'arabe et aussi des textes grecs, on trouve des références très ponctuelles, mais c'est vraiment fait en passant et sans terminologie spécifique. Donc, par exemple, Constantin l'Africain, donc c'est vraiment un auteur central pour comprendre la médecine du XIIe siècle, qui adapte une encyclopédie arabe qui s'appelle le Pantechni. Il parle à propos de la lèpre, d'un mal qui passe des parents aux enfants par la semence. Donc il y a la notion d'une maladie qui passe par la semence. Il dit la même chose de la goutte, mais c'est vraiment fait en passant, sans utilisation d'une terminologie spécifique. Guillaume de Conches évoque les maladies qu'un enfant contracte de sa mère et des maux incurables que le fils obtient dans la même partie du corps que son père. Donc, chez Guillaume de Conches, ce renvoi aux maladies héréditaires sert à appuyer sa théorie de la génération. Donc, il veut prouver l'existence de la semence féminine, donc l'idée qu'il y a une double semence, que la femme aussi a une semence, et il utilise les maladies que l'enfant tire de sa mère comme argument. Donc les ressemblances avec la mère sont classiquement utilisées comme exemple, comme argument en faveur de la théorie de la double semence. Et il utilise une autre fois donc pour défendre l'idée que le sperme, la semence, provient de l'ensemble du corps, donc ce qu'on appelle le pangénèse. Donc, puisque tout le corps est représenté dans la semence, les maladies dans une partie du corps sont aussi transmises aux enfants. Donc là, c'est dans le cadre d'une démonstration sur le mécanisme de la génération. Hildegard de Bingen, dans son œuvre médicale, décrit la mélancolie comme une maladie qui se transmet des parents aux enfants, de même que les autres complexions. Donc là, la complexion, le tempérament, donc l'équilibre entre les qualités premières dans le corps. se transmet des parents aux enfants. Mais ces références restent tout à fait ponctuelles, dépourvues donc de terminologie technique, et ne reflètent certainement pas encore l'existence d'une véritable catégorie pathologique bien circonscrite. Les maladies héréditaires commencent à se constituer en catégories seulement à partir du deuxième quart du XIIIe siècle. Et c'est l'époque de l'assimilation, donc non seulement, comme on l'a vu, du corpus aristotélicien en philosophie naturelle, mais c'est aussi l'époque de l'assimilation de nouveaux textes médicaux, dont notamment le canon d'Avicenne. Donc c'est à partir de 1230, des années 1230 à peu près, qu'on voit apparaître ce concept et avec une terminologie dédiée. Et pour la mise en place de ce concept, la réception des textes arabes, ou pas arabes, plutôt traduits à partir de l'arabe, joue un rôle central. Il y a trois textes qui vont être vraiment importants. Donc le canon d'Avicenne, traduit à Tolède par l'équipe de Gérard de Crémone durant le dernier quart du XIIe siècle, mais qui est véritablement cité seulement à partir des années 1230-1240, pour devenir ensuite l'une des plus grandes autorités médicales du Moyen-Âge jusqu'au début de l'époque moderne. Et Avicenne, pardon, au début du premier livre, donne des définitions de ce que c'est la maladie, et à la fin, un peu comme une pensée qui lui vient après avoir vraiment défini la maladie selon la théorie de la complexion. Donc la maladie, c'est le dérèglement de la complexion d'une personne, donc il est déséquilibré. Il donne une autre définition de maladie, une autre typologie des maladies, où il différencie trois catégories. Donc il y a les maladies contagieuses, qui passent d'une personne à une autre, les maladies héréditaires, les maladies qui s'héritent dans la semence, il dit, héréditantur, et les maladies particulières à certaines populations et régions. Donc on n'est pas là dans le cœur de sa discussion de ce que c'est la maladie. Ça vient un peu après. Une autre traduction importante, c'est Jean Mézuée, donc que les Occidentaux appellent Jean Damascène, qui a écrit des aphorismes, et dans deux de ces aphorismes, Jean Mézuée consacre deux de ses aphorismes aux maladies héréditaires. Le premier, il les décrit en fonction de l'analogie de l'hérédité de l'apparence physique et des vices de l'âme. Le second affirme que l'effet héréditaire est moins fort si seulement l'un des deux parents est atteint d'une maladie. Ce qui m'importe, c'est l'utilisation dans ce texte d'un vocabulaire héréditaire. Donc les termes, est-ce que je les ai ? Oui, voilà. Donc ça, c'est le genre de terme qu'on trouve dans ces traductions, hereditas, hereditare, ex hereditate. Donc verbe et puis un nom. Et une troisième traduction qui a de l'importance pour la terminologie, c'est la version arabo-latine attribuée à Constantin l'Africain du commentaire de Galien aux aphorismes d'Hippocrate, dont le premier manuscrit remonte au XIIIe siècle. Donc c'est important, donc c'est un texte grec d'origine, donc de Galien, son commentaire aux aphorismes d'Hippocrate, mais dans la traduction faite à partir du grec, on ne trouve pas ce vocabulaire de l'hérédité, on le trouve seulement dans la traduction à partir de l'arabe. Et Galien remarque tout à la fin d'un long développement sur les causes de la goutte, donc il donne toutes sortes de causes, comme l'excès sexuel, l'excès alimentaire, que la goutte peut aussi être héréditaire, donc ex hereditate, à cause d'une macule du sperme. Donc là encore, ce n'est pas un sujet en tant que tel, ça vient un peu à la fin d'une longue description, longue énumération des causes de la goutte. Mais ce qui est important, c'est l'introduction de ces terminologies de l'hérédité. Les auteurs latins vont reprendre et développer la terminologie introduite par les traducteurs. Et c'est surtout le verbe héréditaire qui va être utilisé. Et puis, le composé morbus hereditarius et aegritudo hereditarius. Donc on avait vu que dans la question de Paris, c'était morbus hereditarius qui était utilisé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les textes qui sont traduits, mais qui est une sorte de néologisme des auteurs scolastiques, mais qui inspirait des traductions. L'analogie juridique se trouve donc par l'intermédiaire des termes dans les sources médicales, dans les traductions de sources médicales, mais cette analogie n'est absolument pas développée dans les sources médicales qu'utilisent les scolastiques. Donc ça, c'est quelque chose que les auteurs scolastiques vont développer. Donc ils vont, par exemple, Dino Del Garbo, qui est un médecin italien qui exerce dans plusieurs universités de l'Italie du Nord au début du XIVe siècle, va développer cette analogie en disant que donc, seuls les biens qui passent des parents aux enfants sont appelés héréditaires, et en raison de cette similitude, le mot peut s'appliquer de manière métaphorique aux maladies que les enfants tirent de leurs parents. Donc il assume l'idée qu'il est en train de transférer un terme qui est un terme d'origine juridique, mais qu'on peut utiliser en raison de certaines similitudes structurelles, on peut le transférer du domaine juridique au domaine biologique, la transmission des maladies. Et un autre médecin, Jacques Despard, médecin français, parisien, au milieu du XVe siècle, fait la même chose en disant ensuite il y a les maladies héréditaires qui s'héritent dans la semence, c'est-à-dire qu'elles tirent l'origine des semences des parents ou du sang menstruel à partir desquels nous nous développons. Donc là, il y a une référence implicite aux théories de la génération. Hein, selon la théorie de la génération médiévale, l'embryon se constitue à partir de la semence du père et le sang menstruel de la femme. Donc ça, c'est le modèle aristotélicien, avec éventuellement aussi une semence féminine. Donc il y a d'énormes débats parmi à la fois les médecins et aussi les philosophes, voire les théologiens, sur la part et la nature de ces substances initiales. Donc il y fait ici référence. On les appelle héréditaires parce qu'elles passent des parents aux fils et aux filles comme l'héritage des biens temporels. Ces comparaisons juridiques, aident à élaborer le concept de maladie héréditaire et parfois aident les auteurs à les distinguer d'autres maladies. Et ça aussi, c'est un point important. Je pense que ça a aussi été dit ce matin. Déjà, un trait de cette science scolastique, c'est d'analyser les mots, donc par les définitions, donc ici, par l'analyse de ce que ça veut dire, le terme héréditaire, ils arrivent à différencier entre les maladies qui sont des maladies héréditaires et les maladies qui sont liées à la génération, qui sont, on dirait, nous, congénitales, ou des maladies transmissibles, mais qui ne sont pas pour autant héréditaires. Mais donc ça passe par une analyse, ça ne passe pas par l'observation, ça passe par une analyse de la terminologie. Parce que pour pouvoir parler d'hérédité biologique, dans notre sens du terme, il faut qu'il existe une distinction claire entre la transmission des caractéristiques d'une génération à l'autre par le biais des semences, donc entre la transmission des caractéristiques d'une génération à la suivante par le biais des semences, et le processus par lequel les caractéristiques sont produites dans un organisme en développement. Donc une distinction entre hérédité et développement. En l'occurrence, il faut qu'il y ait une distinction entre maladie héréditaire et les maladies que l'enfant développe au moment de la conception ou in utero, donc pendant la gestation, voire après la naissance, par la lactation. Donc il faut qu'il y ait une distinction entre l'héréditaire et le congénital. Or, cette distinction, qui pour nous n'est pas si difficile, est extrêmement difficile à penser avant, grosso modo, le XIXe siècle. Et c'est dans la médecine que cette distinction est faite sans doute pour la première fois. Mais c'est une naissance difficile, comme je l'ai dit, et on le voit dans les discussions ou les efforts d'apporter des définitions de la part de ces médecins, et tous ne distinguent pas clairement ces deux types de phénomènes. Donc, un exemple de ce flou se trouve dans le dictionnaire médical de Pierre de Saint-Flour. Donc là, c'est une adaptation, un remaniement du dictionnaire que je citais tout à l'heure de Jean de Saint-Amand, qui a aussi une entrée maladie héréditaire, morbus hereditarius. Il affirme que la maladie héréditaire peut avoir deux causes. Une cause qui est matérielle et une cause qui est efficiente. Donc là, on est dans le vocabulaire aristotélicien. Deux des quatre causes, une cause matérielle, une cause efficiente. La cause efficiente consiste en l'affaiblissement ou l'infection de la virtus formativa dans le sperme. Donc cette virtus formativa, c'est un concept aristotélicien qui permet de former ce qui permet, la force qui permet au sperme de former la matière fournie par la femme. Et cet affaiblissement ou cette infection de la virtus formativa a pour effet que les boiteux engendrent parfois des boiteux, les aveugles des aveugles. Donc c'est la fin de la citation. Et l'autre cause est efficiente, c'est-à-dire la puissance formative dans du sperme faible ou infecté. Et donc les boiteux engendrent parfois des boiteux et les aveugles des aveugles. Donc là, on est tous d'accord, c'est le concept de maladie héréditaire. Donc une maladie qui est présente dans les parents et qui est présente aussi dans les enfants. Mais il avait commencé autrement sa définition. L'une, donc la cause est double, l'une est matérielle, comme l'infection du sperme ou des menstrues. Donc on a toujours cette idée d'infection dans les deux causes. Et c'est pour cela que ceux qui sont conçus pendant les menstrues héritent de maladies comme la lèpre. Donc qu'est-ce qu'on a ici? C'est certainement pas une maladie héréditaire. Donc c'est l'idée que... il utilise le terme, la terminologie héréditaire. Ceux qui sont conçus pendant les menstrues héritent de maladies comme la lèpre. Mais il ne s'agit pas ici d'une maladie héréditaire, mais d'autre chose. Une croyance très très répandue au Moyen-Âge, selon laquelle l'accouplement pendant les règles est responsable des formations ou de maladies du fœtus, et notamment de la lèpre. C'est quelque chose qu'on trouve, c'est assez complexe, ça a des racines dans la Bible. Puis il y a aussi un interdit déjà biblique qui est repris par l'Église des rapports pendant les règles. C'est un interdit lié à la notion d'impureté, mais qui, avec le temps, va être rationalisé, va être présenté comme quelque chose qui se justifie sur le plan scientifique. Donc, ce n'est pas juste une sorte de tabou, mais c'est quelque chose qui se justifie, parce que si on ne respecte pas ce tabou, ce n'est pas juste une punition divine que votre enfant sera lépreux, non, c'est parce que la semence sera infectée par le sang menstruel. Donc, ça participe aussi à une dévalorisation de la menstruation, surtout à partir du XIIIe siècle. Mais ça n'a rien à voir avec l'hérédité. Donc là, on a une croyance sur le danger d'avoir des rapports sexuels pendant les règles, mais qui est ici insérée dans une définition de la maladie héréditaire avec l'utilisation de cette nouvelle terminologie héréditaire. Donc ça montre à quel point c'était difficile de faire cette distinction. Dans une veine similaire, Michel Savonarole, donc là on est un peu plus, c'est début 15e siècle, et plus tard au 15e, Jean Fernel, associe très étroitement les maladies héréditaires et les maladies dues à l'ivresse ou la vieillesse du père au moment de la conception. Donc si le père est vieux et ivrogne, et surtout s'il a bu au moment de la conception, il y a des gros dangers pour l'enfant. Parce que à la fois la vieillesse et l'ivresse sont responsables d'une mauvaise qualité du sperme et l'enfant en hérite. Vous voyez là encore les maladies héréditaires et les maladies liées à une mauvaise qualité du sperme due à des causes qui agissent au moment de la conception sont mêlées. Un autre médecin, donc là on a à l'extrême fin de la période qui me concerne, donc là on est à l'extrême fin du XVIe siècle, Luis Mercado, que j'ai choisi parce qu'il a écrit un traité sur la maladie héréditaire, l'un des premiers traités, bon, il y a aussi quelques questions médiévales, mais lui aussi assimile les maladies héréditaires, les maladies contractées par l'enfant à cause de la maladie de la mère ou de la nourrice pendant l'allaitement. Bernard de Gordon, grand médecin de Montpellier, vers 1305, construit quant à lui sa discussion de la lèpre, sur la cause de la lèpre, sur la distinction entre la lèpre qui a introduite pendant la grossesse, donc il appelle ça dans l'utérus, et la lèpre qui se développe après la naissance. Donc c'est ça la distinction de base qu'il introduit. Donc la lèpre se développe soit dans l'utérus, soit après la naissance. Dans la première catégorie, il inclut trois cas de figure. Il envisage trois cas de figure. Il y a l'enfant qui est lépreux parce qu'il est conçu pendant les règles, on a vu tout à l'heure. L'enfant qui attrape la lèpre parce qu'il est le fils d'un lépreux. Et le fœtus sain qui est infecté in utero à la suite d'un rapport de la mère avec un lépreux. Donc si dans l'utérus, c'est parce que la personne a été conçue pendant les règles, donc ça l'a infecté, ou parce que c'est l'enfant d'un lépreux, héréditaire, ou parce qu'un lépreux a couché avec une femme enceinte, et ainsi l'enfant sera lépreux. Donc là, l'infection, là on a l'infection par le lépreux pendant la gestation. Donc, il distingue ici, sans utiliser de terminologie d'ailleurs, entre la maladie contractée au moment de la conception, une maladie héréditaire, sans employer cette terminologie, et la maladie contractée plus tard durant le développement embryonnaire. Donc, il ne confond pas l'héréditaire et le congénital, mais pour lui, la distinction importante est autre. La distinction importante, c'est celle qui oppose les maladies qui se contractent dans l'utérus, d'une manière ou d'une autre, peu importe finalement, dans l'utérus, et les maladies qui sont contractées après la naissance, donc par d'autres causes. Donc, si c'est après la naissance, par exemple à cause d'un air mauvais, pourri ou pestilentiel, donc ça fait référence aussi au concept des choses non naturelles, ou à cause de la consommation d'aliments mélancoliques, pareil, comme les lentilles ou d'autres légumes, de la viande mélancolique, des renards, d'ours, de sangliers, lièvres et des quadrupèdes comme les ânes ou similaires. Et la lèpre est aussi causée par trop de contact avec des lépreux, par les rapports sexuels avec une lépreuse. Donc là aussi, vous voyez toutes les causes possibles qui sont ici énumérées, mais la distinction conceptuelle centrale, c'est celle qui oppose la maladie qui est contractée in utero et après la naissance. Donc, pour vous, ces quelques fragments montrent la difficulté de penser ou d'isoler l'héréditaire par rapport à ce concept central qui est la génération. Malgré tout, donc il faut féliciter ces scolastiques qui ont par l'analyse de la terminologie juridique, réussi à isoler l'héréditaire par rapport à la génération. C'est le cas chez Dino Del Garbo, qui a consacré une question scolastique. Il dit, je l'ai discuté in scolis nostris, donc dans mon école, cette question. Donc c'est plus chez lui, ce n'est pas dans le cadre d'un commentaire, où il était un peu obligé parce qu'Avicenne utilisait le mot héréditaire. Ce n'est pas dans le cadre d'un débat sur la lèpre, où c'était aussi mentionné par les autorités, c'est dans le cadre d'un débat consacré entièrement à cette maladie, comme dans la question codlébétique qu'on a vue tout à l'heure. Donc une question qui est entièrement consacrée à cette question, qui date de la même période d'ailleurs. Donc il y a quelque chose qui se passe vers 1300, où il y a un intérêt pour l'héréditaire. Donc une longue question scolastique sur la question de savoir s'il y a des maladies qui sont héréditaires. Et de façon typiquement scolastique, Dino commence par expliquer les deux termes, donc morbus et hereditarius. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans un premier temps, il glose hereditarius, héréditaire, par ex principio generationis, donc qui dérive des principes de la génération. Donc, hereditarius renverrait donc à la génération. Mais il remarque que toute maladie qui dérive de la génération, qui est ex generatione, n'est pas appelée héréditaire. Donc, si au moment de la conception, une mauvaise disposition se développe dans le fœtus, soit à cause de l'air, à cause d'un mauvais régime ou par une autre cause, cette mauvaise disposition ou cette maladie dérive de la génération, c'est lié à la génération. Cependant, elle n'est pas causée par l'hérédité, parce que aucun des parents ne souffre de cette maladie. Ainsi, à la définition de la maladie héréditaire, nous devons ajouter qu'il doit être dans l'un des parents, soit naturellement, soit accidentellement, et surtout si elle est chronique et permanente. Il est clair du sens du mot, puisque seuls les biens qui passent des parents aux enfants sont appelés héréditaires. Donc, c'est le début de la citation que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, ça passe par une analyse du terme héréditaire dans le domaine juridique. Si on veut l'utiliser en biologie, il faut prendre au sérieux le sens de ce terme. Donc, il oppose les maladies contractées par la génération et les maladies héréditaires. Donc, c'est l'analogie juridique qui apporte cette précision de la première glose purement biologique et qui aide à conceptualiser les maladies héréditaires. Il n'est pas le seul, mais quand j'ai dit qu'il y a quelque chose qui se passe vers 1300, là on est en Italie du Nord, à Paris on a eu cette question et le dictionnaire de Jean de Saint-Amand. En Angleterre, on a Jean de Gadesden, qui est le médecin du roi Édouard II, et qui n'a pas a priori de contact direct avec les autres, et qui signale quant à lui qu'il est erroné de qualifier d'héréditaire toutes les maladies dues à une mauvaise qualité du sperme, comme la faiblesse de l'enfant causée par l'ivresse du père au moment de la conception. Donc on a vu que d'autres médecins mélangent ça, mais lui refuse d'appeler ces maladies héréditaires. Donc pour être véritablement héréditaire, il faut que la maladie ou l'affection du père ne soit pas passagère ni accidentelle, à l'instar de l'ivresse, mais chronique, et qu'elle soit ancienne, c'est-à-dire transmise de génération en génération. Donc pour lui, une maladie qui frappe seulement le père et le fils n'est pas encore véritablement héréditaire. Il faut au moins 3 générations pour qu'on puisse vraiment parler d'une maladie héréditaire. Donc, en médecine, le vocabulaire de l'hérédité s'inspire, comme on l'a vu, de traductions latines d'œuvres médicales arabes et d'une version arabo-latine d'un texte grec, donc le commentaire de Galien sur les aphorismes d'Hippocrate. Comme je l'ai dit déjà, il est très significatif de remarquer que dans la traduction à partir du grec du texte de Galien, le vocabulaire héréditaire n'apparaît pas. Galien utilise ici une périphrase. En effet, si la science grecque possède bien la notion de maladie transmise des parents aux enfants, donc on peut trouver dans les textes médicaux grecs cette idée-là, que les boiteux engendrent des boiteux, et chez Aristote aussi d'ailleurs, les boiteux engendrent des boiteux. Parfois même, dans des traités d'Hippocrate, on utilise le pangenèse pour expliquer, donc il y a même une explication physiologique de ce phénomène. Mais la science grecque ne dispose pas d'une terminologie technique pour les désigner. Donc parfois, les médecins n'utilisent aucun terme spécifique, donc tantôt, le vocabulaire qu'ils emploient renvoie non pas à l'hérédité, mais à la génération. C'est très significatif, justement. Donc, katagenos, sougenikos sont des termes qui ne permettent pas de différencier. Donc, ça renvoie à la génération, mais ça ne permet pas de différencier entre l'héréditaire et le congénital. Cette terminologie nouvelle est une invention médiévale. Et la contribution de la médecine arabe se révèle ici donc cruciale, même s'il n'est pas suffisante, parce qu'on a vu aussi que les Arabes utilisent bien un vocabulaire juridique, mais ce sont les médecins scolastiques qui vont vraiment le développer et développer aussi ces réflexions sur la distinction entre l'héréditaire et le congénital. Ils vont plus loin, donc ils introduisent des analogies plus développées, pour clarifier le concept de maladie héréditaire. Et l'utilisation de cette métaphore juridique renforce l'idée que l'hérédité est un système. C'est un système de transmission qui est dicté par des règles. Ça, c'est très important. Il y a des règles de la transmission des biens. De même, il y a des règles de la transmission de maladies des parents aux enfants. Ce n'est pas non plus un terme purement descriptif, donc ce n'est pas seulement une analogie. Il y a aussi une réflexion sur la question de savoir quelles maladies sont héréditaires et comment il faut penser cette transmission. Et notamment, la réflexion sur le mécanisme révèle à la fois les forces et les faiblesses aussi, et la difficulté de penser l'hérédité. Donc, tout d'abord, la question des maladies. Donc, quelles maladies sont considérées comme des maladies héréditaires? Ce ne sont pas les maladies qu'on considère aujourd'hui, nous, comme des maladies héréditaires. Il s'agit essentiellement au Moyen-Âge de la lèpre et de la goutte. Et à partir de 1600, le syphilis va remplacer la lèpre. Ça correspond aussi à une nouvelle situation épidémiologique, hein, parce que le syphilis, bon, il y a beaucoup de débats entre historiens de la médecine à quel point c'est une maladie totalement nouvelle, mais en tout cas, la lèpre est sur le retour, et dans les traités sur maladies héréditaires, dans les questions sur les maladies héréditaires, c'est donc la lèpre qui va être remplacée de plus en plus par le syphilis. Puis il y a d'autres. Au XIXe siècle, c'est la tuberculose qui est une maladie héréditaire par excellence. Dans les traités médiévaux, on trouve la tuberculose, on trouve le calcul du rein, on trouve les maladies de peau donc sous forme d'eczéma, l'épilepsie, la cécité, la boiterie. Mais c'est plutôt secondaire, donc on a des listes où ces maladies apparaissent, mais c'est vraiment la lèpre et la goutte qui sont les plus importantes. Et c'est intéressant parce que la lèpre et la goutte, ce sont des maladies qui ont un certain nombre de choses en commun, notamment d'être considérées comme des maladies de luxe et de luxure. Donc c'est les maladies qui sont liées à l'excès alimentaire et à l'excès sexuel surtout. Et comme on l'a déjà vu tout à l'heure avec la liste des causes de la lèpre et la goutte, et c'est vrai pour presque toutes les maladies dans la médecine médiévale, il n'y a pas une seule cause. Il y a généralement toute une liste de causes pour une même maladie. Et l'hérédité est certainement jamais la seule cause possible des maladies qui sont qualifiées d'héréditaires. Les auteurs scolastiques souscrivent également à l'hérédité des caractères acquis. On l'a vu tout à l'heure dans la question de Dino Del Garbo, donc les maladies qui sont soit naturelles, soit, je pense qu'il disait accidentelles. Oui, voilà, doit être dans l'un des parents, soit naturellement, soit accidentellement, surtout si elle est chronique et permanente. Donc là, il fait référence à l'idée qu'une maladie peut d'abord être acquise pour ensuite être transmise à la génération suivante. Et c'est ainsi que la goutte en vient à être considérée comme une... Ça commence au Moyen-Âge, ça sera beaucoup plus fort encore à l'époque moderne, comme une maladie noble. Voilà, il y a un livre de Roy Porter là, sur ce sujet qui s'appelle Gout, the Partition Malady, quelque chose comme ça. Donc c'est la maladie du noble, qui est une maladie qui est héritée de la surconsommation des générations précédentes, mais qui ensuite est transmise. Et cette idée-là de l'hérédité des caractères acquis, ce n'est pas du tout une exception, c'est au cœur même de la théorie de la génération prémoderne, si vous voulez, et dont vous avez l'exemple type dans un traité d'Hippocrate sur les macrocéphales, donc dans un traité R au lieu, qui était aussi connu au Moyen-Âge, où Hippocrate décrit, ou Hippocrate en tout cas, ça passe pour un traité d'Hippocrate, décrit un peuple qui a des têtes longues. Et il explique que ces têtes proviennent d'une coutume de ce peuple de façonner les têtes des nouveau-nés pour leur donner un aspect plus féroce, et que cette coutume a fini par être entrée dans la nature. C'est une seconde nature, et donc au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de façonner les têtes des enfants parce que ça se transmet. Mais si on arrête la coutume complètement, petit à petit, les têtes vont retrouver leur forme de base. Et pour la goutte, c'est la même chose. Donc la goutte, c'est une maladie qui est certes héréditaire, mais il n'y a pas de séparation très nette entre l'héréditaire et même la culture, la coutume, le style de vie. Parce que ça rentre dans la nature, c'est une seconde nature. Donc j'utilise beaucoup cette métaphore-là de l'habitude comme la seconde nature. Et dans notre question sur le Waton mature, j'en ai cette même idée, parce que dans le débat continué, certes, ça se transmet comme la lèpre, mais comment se fait-il alors que le premier roi de France avait cette capacité? Et donc, il répond, le premier roi de France avait cette capacité à cause d'une consolation à sa naissance qui lui a donné, avec une référence à Albert le Grand, cette consolation à la naissance lui avait donné cette capacité de guérir les écrouelles, et ensuite il l'a transmis aux générations suivantes. Donc les deux ne se contredisent absolument pas, peuvent très bien aller ensemble, ce genre d'explication. Pourquoi ces maladies? Pour la lèpre et la goutte, il y a des racines dans la médecine antique, hein, qu'on a vu que la goutte était considérée par Galien déjà comme une maladie qui pouvait se transmettre. Donc il disait ça vraiment tout à la fin de sa description, mais qui pouvait se transmettre des parents aux enfants. Ce sont donc des listes largement traditionnelles. Le calcul du rein, sans doute une invention médiévale ou une nouveauté médiévale. Mais ce ne sont pas des classifications fondées sur l'observation, ou l'observation personnelle, semble-t-il. C'est en fait Montaigne qui semble être le premier à parler de sa propre expérience de calcul. Donc c'est un passage célèbre où il critique les médecins et il dit que j'ai hérité de mon père le calcul et j'ai hérité en même temps ma haine des médecins. Donc, outre ces typologies, ou des listes plutôt, des maladies qui sont héréditaires, les médecins tentent aussi des typologies plus générales. On a vu tout à l'heure que cette idée de la chronicité, donc il s'agit toujours des maladies chroniques qui se transmettent, qui sont enracinées dans la personne. Pas toujours d'ailleurs pour les mêmes raisons. Parfois, cette idée-là est purement pragmatique. Donc Jacques Despard dit que les maladies aiguës ne sont pas héréditaires parce que les rapports sexuels n'ont pas lieu pendant que l'attaque d'une telle maladie. Donc vous avez la fièvre, vous n'allez pas avoir des rapports sexuels à ce moment-là. Donc ce ne sont pas des maladies qui se transmettent aux enfants. Donc là, on a un modèle causal qui n'est pas très héréditaire, si vous voulez. Donc il suggère qu'il faut être effectivement malade pour... C'est plutôt une idée de la contagion. Donc il faut être effectivement malade pour transmettre la maladie à son enfant. Mais la plupart des médecins insistent plutôt sur le fait que pour être héréditaire, une maladie doit faire partie intégrante de la personne. Donc ils parlent de maladies qui sont fixes, qui sont essentielles, donc cette opposition entre essentielle et accidentelle, qu'on a aussi vu dans la question tout à l'heure, tout au début. Ils sont enracinés dans la personne, donc selon cette idée de l'habitude qui est une seconde nature. Seules ces maladies-là, qui font vraiment partie intégrante de votre personne, sont transmissibles de manière héréditaire. Luis Mercado, donc un médecin espagnol à l'extrême fin de ma période, utilise pour véhiculer cette idée de l'enracinement de la maladie, il utilise le vocabulaire sacramentaire du caractère. C'est très intéressant. Donc là, on a vu le transfert d'un concept juridique de l'hérédité dans le domaine biologique. Ici, on a l'utilisation d'un concept théologique du caractère sacramentaire pour véhiculer l'idée de l'enracinement de la maladie dans la personne. Donc le caractère, parce que le caractère sacramentaire, c'est quelque chose qui est invisible et indélébile. Invisible et indélébile. Et c'est une métaphore qui marche très bien pour l'hérédité. Parce que la maladie héréditaire, ce n'est pas forcément quelque chose de visible, mais c'est même ipso facto caché, mais qui va se manifester dans la génération suivante. Et ça lui permet d'opposer les maladies héréditaires des maladies transmissibles dues à des mauvaises humeurs. Donc, la transmission des maladies héréditaires n'est pas fatale. Dans les textes médiévaux, l'idée que les lépreux engendrent des lépreux, les boiteux des boiteux, les goutteux des goutteux, est contrebalancée, souvent dans les mêmes discussions, par l'affirmation que tel n'est pas toujours le cas. Tout comme les enfants ne ressemblent pas toujours à leurs parents, ils n'héritent pas nécessairement de leur maladie. Et parmi les enfants d'une même famille, certains peuvent être malades, d'autres en bonne santé. C'était le cas aussi pour Montaigne d'ailleurs, lui qui avait hérité le calcul, mais pas ses frères et sœurs. De même, on trouve souvent l'idée que l'enfant n'hérite pas la maladie en tant que telle, mais il habite plutôt une aptitudo, donc une prédisposition qui peut se manifester ou pas. On habite tous une aptitudo, mais pas la maladie elle-même. Ça veut dire aussi qu'il y a un rôle pour le médecin. Donc, certes, on dit parfois que les maladies héréditaires sont incurables, mais en même temps, si c'est seulement la disposition, la prédisposition qui se transmet, ça veut dire qu'il y a un rôle pour le médecin, parce qu'il peut essayer par un bon régime d'éviter que la maladie se manifeste réellement. Et cette vision des choses correspond au concept donc, hippocratique et galénique de la maladie comme les résultats d'une double causalité. Il y a la complexion du malade, donc c'est la prédisposition en quelque sorte, donc le terrain, et il y a les facteurs déclencheurs externes, les choses non naturelles, donc l'air qu'on respire, le régime alimentaire, le style de vie, les états d'âme ou les astres, donc les causes qui ne sont extérieures au corps. Selon certains auteurs, le parent malade peut également éviter de transmettre la maladie s'il se soigne bien. Donc, le rôle du médecin, c'est soit d'éviter que la maladie se manifeste ou que la maladie se transmette. Cette typologie et ses opinions sur la nature des maladies posent le problème du mécanisme physiologique de leur transmission. Donc, pourquoi et comment ces maladies se transmettent-elles? Et dans la mesure où les maladies sont transmises par les semences, nous sommes tous d'accord, et ex principio generationis, les réponses des auteurs sont liées à leur opinion sur le mécanisme de la génération. Donc la question centrale de l'hérédité est celle de la détermination du processus de la génération et des matières impliquées, donc la semence ou le sang menstruel, par le corps des parents et par des facteurs environnementaux. Donc en gros, que je simplifie beaucoup, dans les discussions scolastiques sur les maladies héréditaires, il y a deux modèles, deux approches de la transmission héréditaire. Une approche, c'est la première qu'on peut appeler plutôt une hérédité douce. Donc douce, ça veut dire où l'hérédité est peu isolée d'autres facteurs, de la génération au sens large, et un modèle plus dur. Donc cette hérédité plus douce, attribue la maladie héréditaire à une infection matérielle de la semence. Donc c'est un modèle plus humoral. C'est parce que le sang est infecté, ou comporte une corruption par des mauvaises humeurs, que l'enfant contracte la maladie. Ça se combine souvent avec des formes de pangénisme et se trouve surtout chez des auteurs qui défendent des théories de la génération plutôt galéniques. Donc, quand je dis plutôt galéniques, ça veut dire qu'ils sont tous aristotéliciens, hein, on ne peut pas échapper à Aristote, mais on peut être plus ou moins aristotélicien, ou plus ou moins essayer de quand même donner une place à Galien. Donc ces théories-là, la théorie plus douce, donc, où on explique les maladies héréditaires plus par l'infection des semences par les mauvaises humeurs, où on l'associe davantage au pangénisme, se trouve chez des auteurs qui défendent des modèles plutôt galéniques de la génération. Dans ce modèle, il est difficile de différencier l'héréditaire des maladies qui se contractent par d'autres causes pendant la génération. Mais dans le deuxième modèle, qui est plus aristotélicien, on rejette cette idée de l'infection physique de la semence, on rejette aussi le pangénisme, donc Aristote rejetait le pangénisme, et on se base sur la théorie de la génération aristotélicienne, notamment le concept de virtus formativa qu'on a déjà vu. Dans ce modèle, on peut séparer plus facilement, c'est plus abstrait, donc c'est moins matériel, et c'est plus facile de séparer l'hérédité et d'autres facteurs qui ont une influence sur l'embryon. Et de différencier les maladies héréditaires des maux qui sont simplement transmissibles. C'est aussi une approche qui est plus globale. Donc on ne parle pas souvent dans le modèle plus doux. Il n'y a pas une véritable réflexion. C'est plus quelque chose qui se mentionne un peu en passant. Ce sont les médecins plus aristotéliciens qui rattachent le problème de maladie héréditaire à un problème plus général des causes, des ressemblances et dissemblances entre les parents et leurs enfants. Ils considèrent, à la suite d'Aristote, le sperme comme l'instrument de la virtus generativa du père, qui peut être à comparer à un modèle ou forme dans l'esprit de l'artisan. Donc ce dernier transmet le modèle de l'objet qu'il veut produire à l'outil qu'il utilise pour le réaliser. Donc la semence est l'outil de cette virtus formativa du père. Comme l'explique Jean de Gadesden et Dino Del Garbo, donc ce n'est pas un hasard, ce sont les deux auteurs qui distinguent le plus clairement l'hérédité et qui adoptent donc des modèles plus aristotéliciens. Toutes les formes, tous les mouvements du père sont virtuellement présents dans la semence. Et ça permet au sperme de reproduire ces mêmes formes dans l'embryon. Ces mouvements du père se situent à des niveaux différents. Donc il y a une ressemblance essentielle, spécifique. L'homme engendre l'homme, le semblable engendre le semblable. Il y a le sexe, et il y a les particularités individuelles. Si tous les mouvements sont forts, l'enfant ressemblera totalement au père. Dans le cas contraire, il peut ressembler partiellement ou totalement à la mère ou à des aïeux paternels ou maternels. Donc, Jean de Gadesden et Dino Del Garbo s'inspirent de près de la discussion d'Aristote sur les causes des ressemblances entre parents et enfants et surtout de l'élaboration de cette théorie dans un traité très influent de Gilles de Rome. Donc, c'est un théologien, donc ça montre aussi à quel point il est parfois difficile de différencier la théologie ou les théologiens des maîtres sœurs, hein, parce que là, le traité sur la génération le plus important, sans doute, lu donc aussi par les médecins, a été écrit par un théologien, donc, qui était par ailleurs aussi philosophe, mais c'est quand même un théologien d'un ordre mendiant, donc c'est vraiment un théologien dans le sens fort du terme, hein, et qui a donc une énorme influence sur les médecins, sur les philosophes de son époque. Mais Gilles de Rome n'évoque pas l'hérédité. Il n'évoque pas les maladies héréditaires. Aristote ne mentionne cette transmission de défauts physiques seulement en passant. Donc c'est vraiment la nouveauté, c'est d'utiliser ces éléments de la théorie aristotélicienne élaborée dans le traité embryologique de Gilles de Rome, mais pour construire quelque chose de nouveau, la théorie de maladies héréditaires. Il considère les maladies héréditaires comme un exemple parmi d'autres ressemblances. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle, bon, c'est un modèle qui a quand même d'importantes limites, il ne faut pas non plus taire. L'idée de la représentation de tous les mouvements et toutes les formes du père dans le sperme n'a aucune explication physiologique ou physique, donc il n'explique pas pourquoi la semence représente virtuellement, pourquoi ça serait présent dans la semence. De plus, si le sperme est un résidu de la nourriture, comme le disent les aristotéliciens, il n'y a aucune continuité matérielle entre le père et sa descendance, ce qui complique aussi un peu l'idée de la transmission. Puis il y a bien sûr le problème de la mère, la transmission des maladies de la mère à l'enfant. Donc c'est toujours un gros problème dans la théorie aristotélicienne qui est très concentrée sur l'homme. Et enfin, le problème de l'atavisme. Aristote avait cité l'atavisme comme argument contre la pangenèse, sans lui-même proposer d'explication convaincante. Donc il avait dit, le pangenèse, l'idée que le sperme est un produit de toutes les parties du corps n'est pas crédible parce qu'il y a des sauts de génération. Donc, comment on peut expliquer ça si la semence comporte toutes les parties du corps des parents ? Sans toutefois proposer d'explications plus convaincantes. Et l'atavisme est si difficile parce que l'hérédité, en gros, lie surtout deux générations. Si les caractéristiques se transmettent sur plusieurs générations, c'est qu'à chaque niveau, il existe une tendance à dupliquer la structure parentale. Donc à chaque génération, il y a cette tendance ou la volonté de la nature de reproduire le modèle du père. Mais cette tendance à la réplication n'a rien de nécessaire. Et l'hérédité n'est jamais la seule cause qui explique les ressemblances et les dissemblances entre parents et enfants. Ça, c'est très important. Donc, la cause héréditaire, donc certes, l'enfant est déterminé par les semences des parents, mais il y a plein d'autres causes qui influent sur l'embryon. À la conception, les astres par exemple, mais aussi la nourriture de la mère, aussi l'imagination des parents, surtout de la mère, et ça continue tout au long de la gestation. Donc c'est seulement une cause parmi d'autres, et une cause qui peut toujours être contrecarrée par d'autres causes. C'est donc surtout le moment de la conception où tout se joue. Alors, pour finir, vous aurez compris, donc j'insiste sur l'origine médiévale de ce concept, sur l'importance de l'analogie juridique pour le forger, avec donc ce moment autour de 1300 qui est très très important. Puis on a vu qu'il y a deux modèles de causalité, une causalité plus dure, une causalité plus douce. La causalité plus dure, donc liée au modèle aristotélicien de la génération. On a vu que l'hérédité, ce n'est pas un terme purement descriptif ou métaphorique, il y a un réel effort de construire une théorie causale. Néanmoins, c'est un concept qui reste relativement marginal. Pour différentes raisons. Première raison est conceptuelle, la maladie héréditaire ne correspond pas à la notion de base de la maladie. Donc la maladie, dans la théorie galénique et hippocratique, c'est le dérèglement de la complexion d'une personne par ses différents facteurs environnementaux. Ça veut dire que les maladies qui sont transmissibles, que ce soit d'une personne à une autre par la contagion, ou que ce soit d'une génération à une autre par l'hérédité, sont très difficiles à penser dans le cadre de cette théorie de la maladie. Et vous voyez aussi qu'il y a un rapport entre les maladies communicables, donc transmissibles, d'une personne à une autre, la contagion, et les maladies héréditaires. Donc ils sont, dans les deux cas, il s'agit de maladies qui sont transmises d'une personne à une autre et qui ne sont pas l'effet de l'influence de différents facteurs sur un individu. Dans les deux cas, c'était difficile de les penser. Mais les maladies héréditaires ne sont pas considérées comme une urgence sociale. Contrairement donc, à la peste, donc maladie contagieuse, qui posait le même problème conceptuel de la difficulté de penser cette maladie et de trouver une causalité, mais qui, contrairement aux maladies, était une urgence sociale évidente. Ce qui explique qu'il y a des flots de traités sur la peste, alors qu'il y a quelques traités sur la maladie héréditaire. Néanmoins, c'est bien dans la médecine scolastique qu'on forge en premier ce concept. Les traités sur les maladies héréditaires vont se multiplier à partir de 1600. Donc, ces médecins modernes utilisent en grande partie le même concept que les scolastiques, mais vont évidemment, et c'est très classique, taire complètement cet héritage.